la pianiste du jazz.
Hier et aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Dans le jazz, il y a des gens très connus, hein. Bien sûr, vous avez des Béchette, des Armstrong, des Duke Ellington, et puis des gens quand même très connus chez les Français, par exemple.
Claude Luther, Claude Bolling, et bien d'autres encore.
Mais il y en a qui sont beaucoup moins connus, mais qui étaient des gens précieux pour le jazz. Et on va vous parler aujourd'hui de Pierre Atlan.
Et si nous vous parlons aujourd'hui de Pierre Atlan, c'est parce que en décembre 1988, il nous a quittés, il y a tout juste 30 ans. Chez les musiciens de Nouvelle-Orléans, on dit dans ces cas-là qu'on a replié son ombrelle.
Et comme cet homme-là était outre un musicien vraiment remarquable, et alors un homme d'une qualité humaine superbe.
Nous avons décidé qu'aujourd'hui, la planète du jazz lui rendrait hommage. Le nom de Pierre Atlan reste associé à un certain orchestre. Donc, il était une fois...
Le High Society Jazz Band.
Qui existe toujours d'ailleurs, mais qui a beaucoup marqué les années 60 et 70. Son fondateur était un homme étonnant qui s'appelait Pierre Atlan.
Je crois que ce Pierre Atlan, tu l'as connu ?
Ben, je ne l'ai pas vraiment connu. Je l'ai croisé, j'ai un peu discuté avec lui, mais sans plus. En fait, j'ai eu l'occasion de parler de lui beaucoup plus avec sa fille, Pauline Atlan, qui est chanteuse, dont la vocation de chanteuse était née le jour où son père avait disparu. Parce que Pierre Atlan est un homme qui a tellement joué, qui s'est tellement dépensé, qui a tellement fait mille choses, que je crois qu'il s'est un petit peu raccourci l'existence. Et en tout cas, il est mort à l'âge de 60 ans. En 1988. Il était clarinettiste. Mais alors, c'est un personnage tout à fait...
Hors du commun.
Hors du commun, parce qu'il n'était pas seulement clarinettiste, il était aussi ingénieur, enfin éminent ingénieur des établissements Marcel Dassault. C'est un ingénieur aéronautique très connu. Toutefois, le premier morceau de cette émission ne va pas être un morceau où on entend Pierre Atlan.
Ah bah alors, il nous met l'eau à la bouche et après...
Parce que pour comprendre le High Society Jazz Band, il faut voir d'où il vient. Et en fait, le High Society Jazz Band, c'était ni plus ni moins que le fameux orchestre de Claude Luther au Lorientais, dit les Lorientais, qui s'est fait connaître juste après-guerre, mais qui n'a pas duré très longtemps parce que Sidney Bechet a littéralement happé Claude Luther dans son sillage et Claude Luther a monté un autre orchestre pour ça. Donc nous allons retourner aux fondamentaux et en particulier à un film formidable. Si vous ne l'avez pas vu et qui passe à la télévision, ne le manquez pas. Ça s'appelle Les Rendez-vous de Juillet, c'est de Jacques Becker et on y entend le fameux orchestre des Lorientais qui joue en particulier
Black Bottom Stomp.
Confiance ?
Oui.
Au fait, tu l'as radis ?
Non.
Si vous devez me téléphoner, appelez-moi chez Paul Eric, j'ai foutu tout le temps chez mon père.
Non, sans blague.
Oui, vous en faites pas.
Oh, c'est malin.
Ma tête est pas morte, non?
Oh non, mais ma robe, si tu crois que c'est drôle. Heureusement qu'on dîne pas, j'aurais été belle.
Comment on dîne pas?
Oh, je peux pas, mon chou. On lit la pièce de François.
Ce soir?
Oui. Mon apéron? Il vient aussi, lui.
Oh, bah, tu joues aussi la pièce, toi?
Oui. Oh, tu parles la boulot pour arriver.
Et comment? C'est chouette. Caresse aussi.
Oui, monsieur a eu coup de foudre cet après-midi.
Bon, toi tu m'emmerdes, hein.
Merci.
Et puis fais-moi s'en aller. Thérèse !
Tu m'en fais tout de suite ?
Où ça ?
Je t'expliquerai. Viens me retrouver plus tard.
Mais où ?
Au théâtre Saint-Jacques.
À quelle heure ?
Quand tu voudras. Eh ben alors, tu viens ? Oui, j'arrive.
Adieu, Lucien.
Ouais.
Oh, fais pas la tête. Téléphone-moi.
Bonjour, Lucien.
Naturellement, vous avez deviné qu'il s'agit de la bande sonore du film.
Hein? Et justement, on voulait vous la passer parce que vous vous y êtes cru, hein, dans la cave. C'est complètement génial. On entend les dialogues de ces jeunes de l'époque. Ben voilà, vous avez vécu une petite tranche de vie des années 50.
Exactement. La fin des années 40, hein,
oui.
C'est en juin 49. Oui. Alors, le caveau de l'Orienté n'existait plus. Il avait été fermé par la police pour des problèmes de sécurité. Et en réalité, parce que les voisins avaient mis le
roulard. Protestaient.
Et il avait été reconstitué ailleurs. Cette scène, je me souviens, cette scène est tout à fait emblématique du film qui tourne autour de cette musique et de ce qu'elle signifiait pour des gens qui sortaient toujours juste de la guerre et qui voyait de nouveau le monde s'ouvrir à eux. À cette époque-là, Sidney Bechet arrive et Claude Luther décide alors absolument de faire sa vie avec lui.
Musicale, vie musicale.
Oui, bien sûr, bien sûr. Il a tout fait pour, faut dire. Et ça a très bien marché puisque on peut difficilement penser à Bechet sans penser à Luther ou à Luther
sans penser à Bechet.
Et alors ça va entraîner une certaine modification des choses car l'orchestre que vous venez d'entendre, l'orchestre des Lorientais, beaucoup de ses membres ne sont pas du niveau technique souhaité par Bechet en fait.
Et Bechet est très exigeant.
Très, très exigeant. Donc peu à peu, des gens plus jeunes et plus techniciens investissent la formation et finalement la formation devient autre chose. Et c'est là, à mon avis, qu'arrive Pierre Atlan. Moi, je pense que Pierre Atlan, je n'ai pas beaucoup de détails sur sa bio musicale du début. Je pense qu'il est dans le sillage de tout ça. À l'époque, il est élève ingénieur dans une grande école. Je pense qu'il est un super-héros. Mais il a une passion totale pour le jazz et pour la clarinette. Et donc, il est dans le sillage de ça. Il connaît tout le monde. Et c'est lui qui va peu à peu reconstituer cet orchestre sans Claude Luther. Il va garder le nom de High Society parce qu'il a fondé sa propre formation, mais un petit peu aléatoire, en 47, déjà, tout jeune. Et là, quand même, ça va prendre une certaine structure. Et notamment, autour du répertoire de King Oliver. Il ne faut pas oublier que les Lorientais étaient fondés autour de ce répertoire-là. Et là, ils vont y être fidèles. La première apparition que nous avons de cet orchestre date de 1959. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé avant au point de vue des sources sonores ou imagesques, mais c'est le néant total. Voici un morceau de King Oliver, filmé. Filmé. Là, c'est de nouveau une bande sonore qui s'appelle...
Room Rent Blues.
Bah, le blues du loyer, si vous voyez ce que je veux dire. Pas toujours facile, hein, tout ça. Thank you. Dans cet orchestre, comme dans l'orchestre précédent, il y a un trombone qui s'appelle Jospin.
Je ne pense pas que ce soit un homme politique, hein.
Ah non, mais c'est le demi-frère de l'autre.
Bon.
Et Lionel Jospin racontait que son grand frère ou son grand demi-frère, Mowgli Jospin, l'emmenait quand il était tout gamin avec lui dans les caveaux et qu'il connaissait donc bien cette musique-là. Et ce Mowgli Jospin, c'est lui en fait qui a incité Pierre Atlan à remonter cet orchestre. Puis après, je pense que le tempérament d'organisateur et de chef de Pierre Atlan a prévalu.
Cet orchestre, ben, ça va être longtemps l'épine dorsale du parcours de Pierre Atlan. C'est quelqu'un qui a deux vies.
Au moins. Au moins.
Au moins. Enfin, deux vies connues.
Deux vies connues.
Sa vie d'ingénieur aéronautique et l'autre vie, eh bien, c'est sa vie du jazz. Et je pense qu'on ne peut pas dire que l'une prime sur l'autre. C'est vraiment deux vies très, très importante pour lui.
C'est d'ailleurs ce qui ressort de la biographie qui en sera faite plus tard, quand il disparaîtra dans Air et Cosmos, c'est un personnage important dans l'aéronautique, également dans le jazz. Et alors, il y a une troisième vie très cachée, beaucoup moins connue, c'est sa vie de maquettiste. Mais ça, on y reviendra. Pour l'instant, voici des gens qui sont fidèles à King Oliver, en particulier avec deux cornets qui sont totalement imprégnés, imbibés, qui connaissent ça dans tous les sens. Et Pierre Merlin et Claude Rabanit sont une des choses les plus intéressantes de cet orchestre. Et également, donc, ils ont une grande propension pour le blues. Et ça, pas beaucoup d'orchestres français qui savent jouer le blues, mais ceux-là savaient le faire. À tel point d'ailleurs que le jour où une jeune chanteuse de blues se pointe à Paris, qui s'appelle Billy Moore, qui on va chercher pour l'accompagner, le High Society Jazz Band, naturellement. Et c'est très réussi. Voici un morceau du répertoire de Bessie Smith, un peu tristounet, vu le titre. Hein.
Jailhouse, ben, ça veut dire la prison.
Ah oui,
hein.
C'est le blues de la
prison. Le blues de la prison. Y a pas... C'est vrai qu'il n'y a pas de quoi à rire.
Il n'y a pas de quoi à rire, mais comme il faut un peu allonger la sauce, quand elle reprend après la partie orchestrale, elle enchaîne sur un blues de Jimmy Rushing qui n'a absolument plus rien à voir, ou presque. Jailhouse Blues.
Oh.
Alors, une des choses vraiment étonnantes dans cet orchestre, c'est qu'ils sont en uniforme. Et pas n'importe quel uniforme.
Ah, non.
S'il vous plaît, l'uniforme qu'avaient à la Nouvelle-Orléans, les orchestres.
Eh oui, parce que les orchestres de là-bas, surtout dans l'époque de référence...
Ils n'hésitaient pas devant les moyens. Hein.
Ah non, c'était des uniformes quelquefois, honteux, des tenues de brass band, etc.
Avec des brandebourgs, avec des...
Avec des képis ou des
képis ou des shakos, enfin quelque chose de vraiment rutilant.
Ah oui, l'orchestre de rue de la Nouvelle-Orléans qui fait les parades, choses comme ça, c'est à voir. Hein, et ça continue d'ailleurs.
Et ça continue.
Et alors, cette bande de joyeux, là, ils sont très créatifs sur le plan vestimentaire et graphique d'ailleurs également, puisque Pierre Merlin, qui est un peu une sorte d'oiseau sur la branche, qui a débarqué à Paris en pleine occupation, avec sa brosse à dents, ou à peu près comme tout bagage, de Bordeaux, c'est un type qui est très créatif. Il a laissé des couvertures de disques absolument magnifiques qu'il faisait pour Vogue.
Et alors, il a fait des vêtements.
Je pense que c'est lui qui était à l'origine des efforts stylistiques de l'orchestre Claude Luther. Et d'après ce qu'on m'a raconté, ils faisaient eux-mêmes leurs tenues de scène et elles étaient plutôt exubérantes et disparates. Mais alors, elles tiraient l'œil, hein, ça, c'est certain. On en parle encore dans certaines veillées. Là, le High Society, c'est autre chose, c'est une tenue de scène, un vrai uniforme. Mais alors, je peux dire que ça avait une certaine allure. Hein. Moi, je me souviens encore, je les ai vus dans les années 60. Superbe coup d'œil.
Et puis, il y avait quand même là-dedans une pauvre jeune femme perdue au milieu de tous ces hommes. La pianiste, Martine Morel, qui faisait... ce qu'on appelle la pompe. Vous savez,
c'était une pianiste tout à fait sage, voilà. Laissant une impression un peu identique à celle de Lil Armstrong dans les premiers disques de son époux, Louis. C'est une pianiste extrêmement... Elle était soft, tu vois, elle était au piano. Elle bougeait juste les mains. Elle n'avait absolument aucune expression particulière. Elle faisait son boulot consciencieusement et elle profitait du moment avec une joie toute intériorisée, je dirais.
N'est-ce pas ?
C'est devenu une véritable légende maintenant, Martine Morel. Cet orchestre a démontré quand même que le répertoire King Oliver était une sorte de point de passage obligé. Quand on est musicien traditionnel, il faut avoir exploré cette partie-là de l'histoire du jazz.
Oui, pour bien connaître. Pour bien connaître le jazz.
Et le High Society, évidemment, était au premier rang des orchestres qui la pratiquaient. En voici un exemple qui s'appelle Buddy's Habits.
Alors, habits, ça ne veut pas dire vos
habits. On vient de parler de vos habits, donc habitudes.
C'est les habitudes. Les habitudes de Buddy.
Voilà. Alors, l'habitude de Buddy, c'était simplement que Buddy était un musicien qui buvait énormément de bière et qui devait aller renouveler l'espace disponible de temps en temps, mais assez fréquemment. Donc, il quittait la scène à tout bout de champ. Et alors, Arnett Nelson, à l'époque, en avait fait un morceau assez humoristique, surtout sur le premier thème, qui évoque assez bien les habitudes de ce Buddy, dont on n'a d'ailleurs pas du tout retenu le nom de famille.
Alors, où est-ce qu'ils jouaient, tous ces gens-là? Ils avaient un endroit particulier ou...
La Society Jazz Band, qui était devenue sous la houlette de Pierre Atlan, alors, une véritable institution du jazz. Hein. Ils avaient un repère. Et ce repère, c'était le Riverboat. Le Riverboat, c'était un caveau.
Oui, du côté du boulevard Saint-Michel, dans le quartier latin. Oui, oui.
Alors là, je les ai vus, j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs, parce que j'avais un peu trempé dans la traduction en français du livre sur Jelly Roll Morton d'Alan Lomax, qui racontait sa vie. Alan Lomax étant un sociologue américain éminent. Et ça avait été inauguré en grande pompe, et naturellement, on avait fait appel au High Society Jazz Band pour... la partie musicale du Pinfest.
Animer tout ça.
Exactement. Et naturellement, et ben ça s'est passé au Riverboat à l'automne 64. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et j'ai vu en chair et en os, moi je ne les connaissais pas. J'ai vu les vrais là. Merlin, Rabanit, Atlan, qui a remplacé donc Luther par rapport à ce que j'avais en tête moi sur l'Orienté. Jospin, Martine Morel. Et puis il y avait l'arrivée dans l'orchestre de l'ami Michel Marcheteau, à qui on doit, comme sous bassophone, à qui on doit ce qu'on va entendre, parce qu'il me l'a envoyé.
Et ce Michel Marcheteau, il joue encore, et très très bien.
Il joue toujours, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. Hein. Il joue en particulier dans l'orchestre d'Éric Luther, mais il joue dans d'autres orchestres aussi, le One More Time Jazz Band, etc. C'est un type qui joue avec son frère au banjo, il joue à peu près partout à la fois. Les frères Marcheteau, ils sont très connus dans le milieu jazz parisien et français. Tiré d'un enregistrement de la même époque, trois beaux morceaux à la file l'un de l'autre, Mean Blues, Snake Rag et I Ain't Gonna Tell Nobody. naturellement, tu vas me faire remarquer que l'origine de ces morceaux que vous venez d'entendre n'est pas forcément mortonienne.
Ah oui, alors que c'était en mémoire de Jelly Roll qu'on faisait cette petite fête.
Exactement. Alors, il faut d'abord dire que l'enregistrement n'a pas été réalisé exactement lors de la cérémonie en question, mais il a bien fallu qu'ils mettent un peu de Morton dans leur répertoire. Voici le Morton joué par le High Society Jazz Band. Ça s'appelle...
Sidewalk Blues. Cet orchestre, vous allez être étonné, il était encore en activité un quart de siècle après.
Et je vais me dire plus, il est encore en activité un demi-siècle plus tard.
Impressionnant.
Fondé en 40, et bien, et même davantage, puisqu'il a été fondé en 49. Donc si vous voulez aller écouter le High Society Jazz Band, vous pouvez.
Alors évidemment, ce n'est pas quand même les mêmes musiciens maintenant.
Non. Mais l'enregistrement suivant marque quand même un petit peu une époque, ou plutôt un changement d'époque, puisque les anciens finissent par arriver au bout de leurs possibilités de lèvres, de poumons et de pression ventrale. Et il faut bien les remplacer.
Mais il y a quand même quelqu'un qui est toujours là. Eh bien, c'est Pierre Atlan.
Il est toujours là. Il gère l'affaire. Et alors, il a la conception de l'orchestre comme on a un club sportif, si tu veux. C'est une institution qui dure au fil des ans. Et puis, un beau matin, c'est plus les mêmes qu'au début, mais il est toujours là. Alors que si tu prends d'autres orchestres, comme par exemple...
Duke Ellington disparaît, l'orchestre disparaît. Hein.
Oui, il tient tellement à son personnel et...
Au chef.
Et au chef dont cet orchestre est l'instrument, que quand ces gens-là s'en vont, l'orchestre, il a essayé d'être prolongé, mais enfin...
Oui, mais ça n'a pas marché.
Ça n'a jamais marché, non, absolument pas. Donc, par contre, la Society, ça a très bien marché, parce que Atlan était...
Oui, se renouveler.
Voilà. Et alors, après Atlan, on va voir arriver un autre gestionnaire de l'orchestre, qui est le gestionnaire actuel, qui est Daniel Barda, le fameux trombone français.
Qui, à l'époque, était tout jeune.
Qui était tout jeune et qui a fait son entrée dans l'orchestre, donc dans les années 70. Et voici ce que c'est devenu, cet orchestre qui reprend en quelque sorte la flamme des anciens. Là, nous sommes donc en 74, Pierre Atlan donc est toujours là. Irakli, tout jeune, tient la trompette, est un des trompettistes. Daniel Barda, donc, vient de faire son entrée dans l'orchestre.
Et puis, il y a quelque chose d'un peu spécial qui arrive.
Une rencontre.
Une rencontre avec une chanteuse. Et cette chanteuse, elle s'appelle Edith Wilson. Ah, c'est une grande dame, une grande dame d'autrefois. Imaginez-vous que quand même, elle a été en 1921 la chanteuse de Johnny Dunn. C'est quand même une dame qui a déjà non seulement de l'âge, mais aussi de la structure musicale et de l'expérience.
Oui, elle a été la chanteuse de Johnny Dunn en 1921. Elle a donc, à l'époque dont nous vous parlons, puisqu'elle est née en 1906, 68 ans. Alors, elle a une voix qui montre qu'elle a beaucoup voyagé, hein, cette Edith Wilson.
That love is blind. I fell in love just to see, but now my sweetie don't love me. So now the minutes seem like days, and the days are long as years since my baby went away. Now I'm always shedding tears. That thing called love is such a funny feeling. Thing called love will set your brain a-reeling. Makes you sad, makes you glad, will even drive your mama mad. That thing called love, oh, it's so exciting. Thing called love is really not inviting. Makes you weep, makes you moan. You wish you could leave your happy home, 'cause nobody knows what that thing called love will do. I'm talking about that thing called love, or that thing called love. Your lights are strong, your nights are long.
Voici maintenant devant la troisième vie de Pierre Atlan, vie beaucoup moins connue que les deux autres.
Et oui, c'est sa vie de passionné de maquettes. Imaginez-vous que cet homme-là, qui était quand même très brillant dans l'aéronautique, très brillant en jazz, il était aussi très brillant en maquettes.
Et Pauline Atlan nous a raconté comment les choses se sont passées côté maquettes, puisqu'il n'y a pas que le train électrique. Figure-toi que Pierre Atlan avait recueilli chez lui l'autre Pierre, Pierre Merlin. Car Pierre Merlin, qui avait débarqué donc à Paris pendant la guerre, était quelqu'un d'hyper doué au point de vue donc graphique, décoration, musique, mais également de santé très fragile, à cause de la guerre en particulier. Et puis un tempérament d'oiseau sur la branche de bohème complet, qui avait fait finalement que Pierre Atelan l'avait pris chez lui. Pour Pauline, c'était l'oncle Merlin.
Et ces deux-là, eh bien, les deux Pierres se sont bien trouvés, parce qu'ils avaient la même passion des maquettes. Et ils ont décidé, écoutez bien, de refaire en maquette la ville de la Nouvelle-Orléans, où ils n'avaient jamais vécu longuement l'un et l'autre. Hein.
Non, même pas du tout.
Mais ils ont décidé de faire cette maquette de la ville...
À l'époque, la plus belle du jazz de la Nouvelle-Orléans. Pour, oui. C'est-à-dire juste avant 14, finalement.
En gros, ce qu'ils ont surtout fait, c'est le French Quarter, c'est-à-dire le quartier français, principalement.
Mais alors, attention, ils se sont documentés, ils ont fait un travail de recherche absolument incroyable. Ils ont reconstitué cette ville immeuble par immeuble.
Et il faut savoir que cette maquette est partie pour l'Amérique.
Et elle a été donnée à la ville de Nouvelle-Orléans, donc, et maintenant elle s'y trouve. Elle est tenue en grande pompe après le fameux cyclone. Et si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur Internet, vous cherchez bien, vous la trouverez, un petit reportage vidéo sur cette fameuse maquette.
Et puis, imaginez-vous que dans les années 80, Pierre Atelan, qui était quand même, jusqu'à maintenant, même s'il avait joué dans d'autres orchestres, mais c'était quand même l'homme du High Society.
Oui, mais il avait un peu passé le relais pour la gestion, donc il était plus...
Voilà. Et là, cet homme-là décide de fonder, comme ça, un autre orchestre qui s'appelle... Les Blue Doctors.
Moi, je crois qu'il a cédé à d'amicales pressions.
Voilà. Et je crois que ses copains lui ont dit une chose amusante.
Oui, ils lui ont dit, tu t'occupes de rien. Tu fais la musique, point final, c'est tout. Et nous...
On fait le reste.
Ouais, exactement. Et ça a été un orchestre très réussi. Malheureusement, c'est un orchestre qui n'a jamais eu le souci de la carrière, du studio, etc. On n'a pas de traces de lui autrement qu'en public, enregistré par un vieil amateur de bon enregistrement, d'ailleurs, qui s'appelait Gérald Nicole. Et les deux morceaux qu'on va passer ont été enregistrés en deux occasions tout à fait différentes.
Alors, l'une au Jazz Ben Ball en 85. Alors, le Jazz Ben Ball, on vous en a peut-être déjà parlé.
Ah oui, on a déjà parlé.
Rappelez-vous, c'est cet énorme espace. C'est un truc genre Olympia. C'était à la mutualité. Hein. Donc, vous imaginez une salle immense avec des balcons partout et... Une agitation totale, beaucoup de jeunes qui y viennent. Et alors, je peux vous dire que si ça, l'orchestre ne plaît pas, les jeunes le font savoir. Ils hurlent, ils crient, ils jettent des choses même. Hein.
C'est vrai.
Donc le Jazz Ben Ball, c'est un peu finalement un musical à l'ancienne.
Ça avait un petit côté Élysée Montmartre aussi. Le Jazz Ben Ball a disparu dans les années 90. Alors là, c'était l'édition de 85. Et je me souviens parce que j'y étais avec le Jazz de Pique, un big band. Et j'ai entendu le premier morceau, enfin le passage des Blue Doctors, y compris ce que nous allons vous faire entendre maintenant, qui s'appelle Picking on Your Baby.
Et puis là, on y entend chanter Pierre Atelan.
Oui, c'est très émouvant. Alors c'était un bon orchestre. Hein. Il y avait donc à la trompette Marcel Bernstein, il y avait Gabriel Conessa au trombone, que je connaissais de très longue date, et qui me présentait à Pierre Atelan. C'est là que j'ai découvert Pierre Atelan et toute son affabilité. C'était un type très, très aimable, très gentil, très positif. Il y avait Jacques Schneck au piano et les frères Marcheteau, incontournables.
Grâce à qui on a eu voilà. Toute cette documentation.
Exactement, parce que c'est Michel Marcheteau qui a récupéré les bandes de cet enregistrement-là. Alors, le premier morceau s'appelle « Picking on Your Baby » et on peut vraiment profiter d'un final de trompette absolument extraordinaire de Marcel Bernstein. Je dois dire que voilà un musicien français totalement méconnu, un grand musicien qui a plus de 80 ans maintenant, qui joue toujours et qui a commencé avec Sidney Bechet. Je te rends compte du parcours.
C'est dire.
Et amateur. Et puis le morceau qui vient après et qui terminera cette émission a été enregistré
à la cave du Club de France,
Rue Pavée,
qui était une petite cave tout à fait sympathique, pas très très grande. Donc les gens s'y entassaient.
Il était 140 personnes.
Oh là là, oui, mais ben, quand il y avait 200, ben, c'était pas facile de bouger. Hein.
140, c'était le maximum. Il était quand même un big band bien serré sur l'estrade. Enfin, c'était une belle cave. Et là, les Blue Doctors se sont produits un an avant la mort de Pierre Atelan. Et nous avons choisi, donc, pour terminer cette émission, High Society, puisque ce morceau est toujours marqué inébranlablement par un solo de
clarinette.
They go from bad to worse instead of getting better. Or they pick in on your baby, 'cause I'm a bigger negro. Thank you.
c'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.